Whitechapel, automne 1888, dans une petite chambre au sous-sol du London Hospital, un homme vit. Sa tête mesure 91 cm de circonférence, c'est gigantesque, c'est le tour de taille d'un homme adulte. Sa peau est aussi épaisse et aussi dure que celle d'un éléphant. Et sa main droite est devenue tellement énorme qu'elle ne peut plus rien saisir. Les passants, quand ils croisent cette personne, s'évanouissent en croisant. Pourtant, le monstre dans cette histoire, c'est pas celui qui vit dans le sous-sol. Parce que cet homme, dans son lit, lit Jane Austen. Il récite les psaumes par cœur, il construit d'une seule main des cathédrales en carton, il reçoit même la visite de la princesse héritière d'Angleterre qui lui serre la main devant tout le monde. Et à l'époque victorienne, c'est pas rien. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur Elephant Man, parce que, en général, c'est faux. Sa maladie, c'est pas celle qu'on vous a dit pendant un siècle. Son tortionnaire dans le magnifique film de David Lynch n'a jamais existé. Comment, 100 ans après sa mort, Michael Jackson a offert $1 million au London Hospital pour racheter son squelette? Oui. Nous devons commencer ensemble cette vidéo par un mystère médical que personne pendant 125 ans ne va réussir à résoudre. Joseph Carey Merrick est né le 5 août 1862 à Leicester, en Angleterre. Son père est magasinier dans une filature de coton et sa mère est une ancienne domestique baptiste qui enseigne à l'école du dimanche. C'est d'ailleurs elle qui va apprendre à son fils à lire et à écrire. Et ça, c'est pas rien, vous le verrez plus tard. C'est elle qui va lui transmettre la passion pour les mots et pour les livres. À sa naissance, Joseph est un bébé absolument normal. Il n'a pas de marques sur le corps, il n'a pas de bosses, sa peau est normale. Il n'y a aucun signe avant-coureur de la maladie. Et c'est ça qui rend la suite terrifiante, parce que sa mère, elle a une explication. Une explication qu'elle va défendre toute sa vie et que Joseph va lui-même croire au bout d'un moment jusqu'à sa mort. 3 mois avant la naissance de Joseph, en mai 1862, elle se serait rendue à la Mayfair annuelle de Leicester. Et là, dans la foule, elle aurait été bousculée, jetée à terre, devant un éléphant. L'éléphant qui était là en parade. Et selon une croyance victorienne très répandue, qu'on appelait l'impression maternelle, une frayeur subie par une femme enceinte pendant sa grossesse peut marquer à jamais l'enfant qu'elle porte. L'éléphant aurait donc symboliquement marqué Joseph dans son ventre. Alors j'annule ça tout de suite parce que quand on lit les travaux des biographes Michael Howell et Peter Ford, qui ont fouillé à peu près un siècle plus tard les archives de la presse locale de Leicester, ils ont découvert qu'il n'y avait aucune ménagerie, en tout cas attestée dans les documents, hein, à la foire cette année-là. Mais pire, le Leicester Chronicle de l'époque s'est même plaint de l'absence de spectacles dans les rues. Donc l'éléphant n'a a priori jamais existé. La légende, c'est une construction, une légende familiale, on va dire. Par contre, le surnom que ça va donner à Joseph va le suivre jusque dans la tombe, Elephant Man. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps de cet enfant? Vers 21 mois, les premiers signes apparaissent. Alors, il a d'abord un gonflement des lèvres, puis une bosse osseuse sur le front et cette fameuse peau qui va s'épaissir, qui va durcir, qui va devenir grumeleuse. Et à 5 ans, c'est incontrôlable. À 10 ans, rien à voir avec la maladie. Là, il fait une chute sur la hanche qui va le rendre boiteux pour toujours, donc ça rajoute encore quelque chose à son corps. Et à 12 ans, son corps est devenu asymétrique au point d'en être assez bouleversant. Il a un bras droit qui est énorme, alors que le bras gauche est très fin, très frêle, comme celui d'un petit enfant de 10 ans. Il n'y a aucun médecin qui n'arrive à comprendre, il n'y a pas de nom pour cette maladie. Joseph est à lui tout seul un mystère médical inédit. Et notez là aussi ce détail, parce qu'on va y revenir, il va falloir attendre 2011 pour qu'une équipe scientifique américaine comprenne enfin ce qui s'est passé dans son corps, 121 ans après sa mort. Le 29 mai 1873, sa mère meurt d'une pneumonie. Joseph a 10 ans, il écrira bien plus tard dans un petit pamphlet autobiographique qu'il va faire imprimer à l'âge de 22 ans, que la perte de sa mère a été, je le cite, la plus grande tristesse de sa vie. Et c'est d'ailleurs à partir de ce jour-là que sa vie va basculer dans l'horreur. Son père va se remarier avec l'horlogeuse, ça c'est pas un souci, hein, c'est une veuve qui avait déjà 2 enfants, mais qui va se révéler être très cruel. Joseph va quitter l'école, il essaie de travailler dans une manufacture de cigares, mais sa main droite est trop volumineuse, trop épaisse pour rouler les feuilles. Alors on l'envoie vendre de la mercerie en porte-à-porte, très mauvaise idée. Son visage va terrifier les clients, et sa diction à ce moment-là, à cause des lèvres enflées, etc., est devenue un peu inintelligible. Cerise pourrie sur le gâteau, son père va se mettre à le battre parce que Joseph n'atteint pas ses objectifs de vente, donc il va fuir. À 17 ans, il n'a plus nulle part où aller, il va s'engager volontairement à la Workhouse de Leicester. Alors la Workhouse, c'est pas un endroit où il fait bon vivre, c'est l'institution la plus humiliante de l'Angleterre victorienne, une sorte d'hospice mais aussi un peu prison où il y a des indigents qui travaillent en échange d'un toit et d'une soupe immonde. Joseph va y rester 4 ans où il va broyer des os pour fabriquer de l'engrais. Et c'est là, dans le pire trou de l'Angleterre victorienne à 22 ans, que Joseph Merrick va prendre une décision qui le rend complètement en avance sur son époque. Une décision que David Lynch, dans son film, a totalement effacée, alors que d'ailleurs le film est plutôt fidèle à la véritable histoire, c'est intéressant. Pourtant, c'est cette décision qui va changer non seulement sa vie, mais l'histoire entière du regard qu'on porte sur les corps différents. Voici la première grande révélation de cette histoire, et accrochez-vous bien parce qu'elle est en train de réécrire un siècle de récits populaires. Joseph Merrick n'a pas été sauvé par un médecin compatissant qui l'aurait arraché à des exploiteurs cruels. Ça, c'est un mythe, c'est une légende. C'est d'ailleurs cette version-là qu'on a dans le film de Lynch. La réalité, c'est pas ça. Et c'est plus digne. En 1884, depuis sa workhouse, Joseph va comprendre que la seule façon pour lui de sortir de là avec un peu d'argent et un peu de dignité, c'est de monétiser ce qu'il marginalise pour économiser de l'argent, pour s'acheter une maison. C'est ça un peu son but, hein. Alors il va faire quelque chose d'inouï pour l'époque. Il écrit lui-même, avec sa main valide, un comic de musical de Leicester qui s'appelle Sam Thor. Il va lui proposer une sorte de partenariat commercial. Thor accepte et monte une sorte de petit syndicat avec trois associés, et Joseph entre en scène, donc pour le grand public, sous le nom de l'homme-éléphant, moitié homme, moitié éléphant. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? C'est pas un sauvetage qui a été fait par un freak show que Joseph aurait croisé, c'est une initiative économique pensée et exécutée par Merrick lui-même. Et en novembre 1884, Joseph arrive à Londres. Et c'est ici que je dois vous parler d'un homme dont le nom doit être absolument réhabilité, parce que en faisant mes recherches, je me suis aperçu que le cinéma en a fait un homme démoniaque, c'est Tom Norman. Si vous voyez le film de Lynch, vous vous souvenez peut-être de ce personnage, Mr. Bites, qui est joué par Freddie Jones. C'est un ivrogne, il cogne partout, il est sadique, il est méchant, il maltraite Merrick, il l'exploite comme un animal, ce qui va donner la fameuse réplique. Eh bien, ce personnage-là, c'est une invention. Le vrai Tom Norman avait 24 ans en 1884, et surtout, il partageait équitablement, c'est-à-dire à 50-50, les recettes avec Joseph. Lui-même écrira plus tard ce qu'il pensait de son protégé. Je le cite parce que la phrase, je la trouve sublime. « C'est probablement l'être humain le plus remarquable à avoir jamais respiré. » Et sur la pancarte d'entrée du spectacle de Joseph, au 123 Whitechapel Road, Norman avait écrit sur un petit panneau « Il n'est pas ici pour vous effrayer, mais pour vous éclairer. » Ça veut tout dire. Joseph, je vous l'ai dit, il économisait sa part parce qu'il voulait s'acheter une maison. Et à ce moment-là, va rentrer dans sa vie un jeune chirurgien du London Hospital. Il s'appelle Frederick Treves. On va l'appeler Frederick dans cette histoire, il a 31 ans. Il examine Joseph, il lui glisse sa carte de visite et il le présente à la Pathological Society of London le 2 décembre 1884. Joseph va y aller une première fois, il va accepter les examens, mais il refuse de retourner ensuite à l'hôpital. Il dit, selon Norman, hein, c'est de lui qu'on tient cette source, qu'il s'y est senti dénudé comme un animal dans un marché aux bestiaux. Et cette capacité, je le souligne parce que c'est pas rien, à dire non à l'époque, un médecin de pouvoir, je veux dire, on est en Angleterre victorienne, ça en dit beaucoup sur la force intérieure de ce personnage. C'est pas anodin. Fin 1884, la police ferme le lieu de Norman. Alors Joseph rejoint une foire itinérante. Il n'y a pas tellement de choix. Mais en 1886, ses managers prennent une décision qui va le détruire. Indirectement. Il décide de tenter le continent européen. Et c'est là que tout bascule. Quelque part en Belgique, je ne savais même pas qu'il était arrivé si près, son nouveau manager vole à Joseph l'intégralité de ses économies, tout l'argent qu'il avait gagné, toute sa vie d'épargne. Donc la maison qu'il voulait s'acheter, tout. Ouais, il n'a plus rien. Il va abandonner Joseph dans une rue à Bruxelles, sans un sou, sans parler un mot de langue locale, avec un visage qu'on lui connaît, donc dans un état de désespoir absolu. Joseph va réussir à avancer, il va tenter d'embarquer pour Douvres, mais on lui refuse l'embarquement, à cause de quoi? À cause de son apparence. Et il finit par atteindre Anvers et réussit à obtenir un billet de troisième classe pour le port d'Orwich en Essex. Et le 24 juin 1886, au petit matin, Joseph Merrick arrive à la gare de Liverpool Street à Londres en pleine heure de pointe. Il a sa grande cape noire qui descend jusqu'au sol, il a sa cagoule, une espèce de cagoule en toile, sur mesure, on dirait un sac à patates, hein, qui dissimule son visage. Ça attire la foule. On entend des hurlements, il y a une bousculade, et Joseph, qui souffre en plus d'une bronchite à ce moment-là et qui peine à respirer, va s'effondrer dans un coin de la gare. C'est la scène dont est issu le son que vous avez entendu au départ dans le film de Lynch. Deux policiers vont l'emmener dans une salle d'attente, ils le fouillent et ils vont trouver que deux objets. C'est pas énorme. Une vieille photo, c'est la photo de sa mère qui gardait avec lui depuis son enfance, et une carte de visite, la carte du docteur Frederick. Il l'avait conservée sur lui pendant 2 ans, mais il savait même pas trop pourquoi, et ça va lui sauver la vie. Frédéric est appelé et emmène Joseph au London Hospital. Il le baigne, le nourrit, va l'installer dans une petite chambre d'isolement au grenier. Mais il y a un problème parce que le London Hospital, par la charte même de sa fondation, n'a pas le droit d'accueillir des patients dits incurables. Et sa maladie, elle est incurable à Joseph, on ne peut pas le soigner. Alors pour contourner la règle, le président du comité de l'hôpital va publier dans le Times de Londres une lettre ouverte qui demande aux Anglais de financer eux-mêmes l'hospitalisation de cet homme. C'est pas une anecdote très connue, ça. Eh bien, la réponse a été massive de la part de la population. Il y a des dons qui ont afflué de tout le pays avec cet argent. Ils ont aménagé pour Joseph deux pièces au sous-sol de l'aile Est, donnant donc sur la cour intérieure de l'hôpital, avec un lit spécial, très solide, et puis un peu remonté, et surtout une chaise renforcée. Parce que il faut que vous compreniez que sa tête était tellement lourde qu'il pouvait se briser la nuque s'il s'allongeait. Donc en fait, pour dormir, il était obligé de ramener, j'ai essayé de vous faire voir comme ça, ses deux jambes devant lui, voilà, et de tenir sa tête en posant le menton sur les genoux. Et dans ces deux pièces, il y a aussi une consigne express qui vient de Frédéric, il faut aucun miroir. Et là, dans ce sous-sol, à 24 ans, va commencer la quatrième et dernière vie de Joseph Mary. Joseph lit Jane Austen, il dévore la Bible, il récite les psaumes par cœur, il écrit des lettres dans un anglais parfaitement maîtrisé, et il construit, je vous l'ai dit au début de la vidéo, de sa seule main valide, la gauche, qui est restée un peu fine, un peu délicate, Joseph Merrick construit des modèles complexes en carton qu'il offre comme cadeau à ses visiteurs. Sa pièce maîtresse est une réplique de la cathédrale de Mayence en Allemagne. Cette cathédrale est conservée aujourd'hui dans les collections du Royal London Hospital, mais c'est rien comparé à ce qui va se passer le 21 mai 1887. Parce que ce jour-là, le prince et la princesse de Galles, c'est-à-dire, je vous parle quand même des futurs Édouard VII et Alexandra, la future reine d'Angleterre, ils inaugurent deux nouveaux bâtiments du London Hospital. Et la princesse Alexandra demande expressément à rencontrer l'homme éléphant. Elle rentre dans sa chambre, elle s'assied à côté de lui, elle lui serre la main. Là, je sais que ça vous paraît rien si vous regardez la vidéo en 2026 ou après, mais il faut mesurer ce geste. La princesse héritière du Royaume-Uni, dans toute la rigidité protocolaire victorienne, vous trouvez ça rigide aujourd'hui, imaginez à l'époque, elle va prendre dans sa main la main dite monstrueuse d'un homme que la rue traite de bête de foire. Elle lui offre une photographie d'elle signée, qui va devenir d'ailleurs son trésor le plus précieux. Et chaque année, jusqu'à la mort de Joseph, elle va lui envoyer une carte de Noël personnelle. Cette poignée de main, ça va changer pas mal de choses dans sa vie. Parce que du jour au lendemain, Londres tout entier veut voir Joseph. La haute société se presse à son chevet. Mais l'épisode le plus émouvant de toute cette histoire, pour moi, c'est probablement le moment qui, dans la vie de Joseph, va à la fois le briser et à la fois le reconstruire. Frédéric avait remarqué que Joseph, malgré toutes ses belles visites mondaines, était profondément seul. Il était intelligent, il était cultivé, il était poète, il était doux, mais il n'avait jamais connu de femme autrement que par le dégoût ou le respect de la princesse. Alors Frédéric va arranger la visite d'une amie à lui, Madame Léla Mathurin, une jeune veuve qu'il décrit lui-même comme jeune et jolie. Elle est prévenue à l'avance de qui elle va rencontrer, elle rentre dans la chambre, elle regarde Joseph, elle lui sourit et elle le prend dans ses bras. Elle lui donne de l'affection physiquement, elle va générer de l'ocytocine dans son cerveau, elle va lui donner de la chaleur humaine qu'il n'a probablement jamais eu depuis la mort de sa mère. Joseph s'effondre sous cette simple preuve d'affection. Frédéric va écrire dans ses mémoires, il pencha la tête sur ses genoux et sanglota au point que j'ai cru qu'il ne s'arrêterait jamais. Ça l'a bouleversé, ça a été un raz-de-marée émotionnel pour lui. Joseph va dire plus tard que Léla Mathurin a été la première femme à lui avoir souri et surtout à lui donner un minimum de tendresse et de chaleur humaine. La première femme à 25 ans. D'ailleurs, la seule lettre manuscrite de Joseph qui nous soit parvenue à travers les siècles, c'est précisément une lettre qu'il a adressée à Léla Mathurin, qui est datée du 10 juillet 1889. Pendant ce temps, certaines personnes trouvent très étrange l'histoire des prostituées qui meurent les unes après les autres, pas si loin de chez Joseph. Le gars qui a l'air d'un monstre, un monstre qui tue des femmes. Bien, j'ai trouvé une info assez radicale sur ce sujet et peut-être même inédite. Cette info, elle met en scène Lady Knightley. Knightley, c'est une aristocrate qui propose d'accueillir Joseph dans sa propriété de Folsway Hall, c'est dans la campagne de l'Angleterre, et à trois reprises, Joseph va voyager dans un wagon de train privé et passer plusieurs semaines, on imagine, à cueillir des violettes, à lire des bouquins, écouter le chant des oiseaux, à nourrir les écureuils, enfin bref, à faire sa petite vie tranquille. Et j'ai vérifié les dates. Et pendant qu'à Whitechapel, à quelques rues de sa fenêtre, Jack l'Éventreur massacre 5 femmes entre août et novembre 1888, Joseph Merrick, lui, est ailleurs physiquement pendant certains meurtres. Donc si tant est qu'il y avait un minimum de doute, comme on peut le lire parfois sur Internet, ça ne peut pas être lui physiquement. Ça va me permettre de rebondir sur un mécanisme psychologique fascinant qui est à l'œuvre dans toute cette histoire. À l'époque victorienne, on croyait à une pseudo-science qu'on appelait la physiognomonie. La physiognomonie, c'est l'idée qu'un beau visage cache forcément une belle âme, et forcément un visage hideux ou monstrueux, ça trahit une âme monstrueuse. Et Joseph Merrick est la réfutation vivante et radicale de cette croyance. Bah, ce qui est dommage, c'est que ce biais n'a pas du tout disparu en 2026, ça existe encore. Il y a une étude de Princeton qui a été signée par Willis et Todorov en 2006, qui a mesuré qu'il nous suffit à peine de 100 millisecondes pour juger un inconnu sur son visage. On se fait une opinion et un degré de confiance en fonction de son visage. Et plus le visage est dans les critères de beauté de l'époque, plus on fait confiance. Bon alors, il va dans son cottage, tout ça, oui, mais cette renaissance, aussi belle soit-elle, va pas durer. La façon dont la vie de Joseph va s'achever est très chargée symboliquement. On a du mal à croire qu'elle est vraie. Le 11 avril 1890, au milieu de la journée, un médecin du London Hospital rentre dans la chambre de Joseph. Il le trouve mort, en travers de son lit. Joseph a 27 ans, 8 mois et 6 jours. L'enquête du coroner se tient le 15 avril. Le coroner s'appelle Owain Edwin Baxter. Donc c'est le même homme qui, 2 ans auparavant, a instruit des enquêtes, alors pas toutes, 3 sur 5 pour être précis, des victimes canoniques de Jack l'Éventreur. Le même homme, le même bureau de coroner, pour à la fois une des âmes peut-être les plus pures de Londres, et pour le résultat des faits du visage peut-être le plus diabolique de Whitechapel. Baxter conclut officiellement une mort accidentelle par asphyxie causée par le poids de la tête de Joseph qui se serait écrasé sur sa propre trachée. Mais Frédéric, qui pratique l'autopsie, va beaucoup plus loin et découvre que Joseph est mort d'une dislocation cervicale. Le poids de son crâne, quand il s'est allongé, lui a simplement brisé la nuque. Je vous en avais parlé de ça. Il n'avait pas le droit de s'allonger, Joseph. Et voici ce que Frédéric écrit dans ses mémoires en 1923. Il me disait souvent qu'il souhaitait pouvoir s'allonger pour dormir comme les autres. Et je pense que cette dernière nuit, il a dû, avec une certaine détermination, en faire l'expérience. Ainsi advint-il que sa mort fut due au désir qui avait dominé sa vie, le pathétique mais désespéré désir d'être comme les autres. Je suis assez d'accord avec cette théorie, je ne crois pas que ce soit un hasard qu'il se soit allongé ce jour-là, il savait très bien ce qui se passerait. Ce jour-là, il l'a tenté et ça l'a tué. L'enquête classe la mort comme accidentelle, mais il reste une dernière question que personne, vous entendez, personne ne va réussir à résoudre avant 2011, 121 ans après l'autopsie. Qu'est-ce qui se passait exactement dans le corps de cet homme? C'est quoi qu'il avait? Déjà, malgré tout ce qui se raconte, il n'avait pas l'éléphantiasis. Ça n'a rien à voir, cette maladie-là, c'est une infection parasitaire tropicale qui provoque des œdèmes des membres, ça c'est vrai, mais il y a confusion parce qu'il y a son surnom Elephant Man qui vient simplement de l'aspect de sa peau et de la petite légende familiale de l'éléphant dont on avait parlé, mais médicalement, ça n'a rien à voir. Pendant tout le 20e siècle, l'hypothèse dominante, c'était une neurofibromatose de type 1. Alors, ça se tient, c'est une maladie génétique connue qui provoque des tumeurs nerveuses et des taches café au lait sont très caractéristiques, sauf que Joseph, justement, il n'en avait aucune de ces taches. Et en plus de ça, son atteinte, ses œdèmes, était très asymétrique. Or, la neurofibromatose est généralement symétrique. Et c'est en 1986 qu'il y a le premier tournant qui arrive. Cohen et Tibbles publient dans le British Medical Journal une nouvelle hypothèse révolutionnaire. Joseph Merrick souffrait d'une maladie extrêmement rare baptisée le syndrome de Protée. C'est en référence au dieu grec qui était capable de changer de forme. Tout colle. La macrocéphalie, l'hypertrophie osseuse, la croissance asymétrique, l'épaississement de la peau, surtout aux mains et aux pieds. Mais vous allez me dire, ok Fabien, une hypothèse, c'est pas une preuve. Il faudrait de l'ADN. Dans les années 2000, ils pensent comme vous, ils essaient de prendre de l'ADN sur son squelette, mais c'est l'échec. Parce que ce squelette, il a été nettoyé, bouilli, blanchi pour être exposé. Même les quelques cheveux qui ont été conservés, ils ont été nettoyés. Et tous ces traitements, ça a totalement détruit l'ADN exploitable. Donc l'énigme de Joseph Merrick semblait verrouillée pour toujours. Et puis en 2011, 21 ans après cette autopsie, la lumière. Une équipe du National Human Genome Research Institute aux États-Unis, dirigée par Marjorie Lindhurst, va publier dans le prestigieux New England Journal of Medicine la découverte clé qui change tout, le syndrome de Protée causé par une seule chose. Une mutation unique dans un gène appelé AKT1. Il y a une seule lettre qui a changé dans l'ADN, un endroit très précis de l'ADN de Joseph, qui a une lettre qui change dans le chromosome 14, si on veut être précis, et c'est tout. Et cette mutation n'est pas héréditaire, elle ne se transmet pas. Elle apparaît spontanément in utero lors d'une division cellulaire un peu trop précoce peut-être, et elle va toucher qu'une seule partie des cellules du corps, aléatoirement, pas toutes. C'est précisément pour ça que le bras droit de Joseph était devenu gigantesque, pendant que son bras gauche, lui, restait celui d'un petit enfant. Une seule lettre changée dans toute une séquence d'ADN, dans une cellule d'un chromosome dans un embryon en 1862 à Leicester. Et c'est ça qui aura déterminé toute la vie de Joseph Merrick. Le syndrome de Protée existe toujours aujourd'hui, il a touché moins de 500 personnes connues dans le monde entier, donc Joseph Merrick est resté de facto un cas unique probablement pendant un siècle. Alors attention, vous croyez qu'on a fait le tour, vous croyez que c'est fini, mais il nous reste une dernière chose à raconter. Et c'est peut-être la plus dingue de toute cette vidéo. Je profite de ce suspense pour vous dire que j'ai mis la playlist entière des AllThread. Le AllThread, c'est le format de la vidéo que vous regardez. J'en ai fait une playlist qui est disponible dans la description. Vous pouvez en profiter, vous pouvez avoir les autres vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner, ça prend pas longtemps, ça aide énormément. Alors, la synchronicité la plus étrange de cette histoire, c'est que le 30 mai 1987, donc 100 ans précisément après la visite de la princesse Alexandra à Joseph Merrick, le Los Angeles Times publie une révélation qui va faire le tour du monde en quelques heures, même si on l'a complètement oublié depuis. Moi, je m'en souviens pas, j'avais 5 ans à l'époque. Michael Jackson, qui était en pleine gloire planétaire, là, avec son album Bad, vient de formuler une offre officielle au London Hospital Medical College pour acheter les ossements de Joseph Merrick pour la petite somme de 500 000 $. Et attention, parce que l'information, ça vient pas d'un tabloïd anonyme, d'une presse ou de je sais pas quoi, hein. Ça vient directement de Frank DiLeo, le manager personnel de Michael Jackson, qui va confirmer la démarche par un communiqué officiel. Quelques semaines plus tard, en juin 1987, deuxième information, l'agence UPI annonce que Jackson, après le rejet de sa première robe, vient de doubler la mise à $1 million. Le chef administratif du London Hospital, David Edwards, confirme alors publiquement à la radio canadienne que oui, l'institution a reçu deux offres successives et que oui, Michael Jackson a visité l'hôpital à deux reprises pour contempler, je le cite, le squelette. Les deux offres ont été refusées, n'est-ce pas? Mais 6 ans plus tard, en 1993, Michael fait la très célèbre interview avec Oprah Winfrey et il va y démentir tout ça. Il accuse la presse à scandale d'avoir inventé l'histoire de toute pièce, sauf que ce démenti, déjà, il arrive après les faits, très longtemps après, et contredit directement son propre manager et le chef de l'administration du London Hospital. Ça tient pas très debout. Par contre, ce qui est troublant, c'est que dans cette même interview à Oprah, Jackson, il reconnaît quand même son obsession pour Joseph Merrick. Il dit qu'il aime cette histoire, que ça le touche, il dit qu'il pleure à chaque fois qu'il y pense. Et quand j'y réfléchis, je comprends pourquoi. Finalement, Joseph Merrick, c'est l'homme dont le nom est toujours associé à la phrase la plus déchirante du cinéma de David Lynch que vous avez entendu au début de la vidéo. Je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Elle est même reprise dans des trucs de pop culture comme les Simpsons ou les trucs comme ça. Des fois, je l'entends, je me dis « Ah ouais, je sais même pas si les gens ont toute la ref ». J'essaie toujours de vous trouver des petits trucs parce qu'à force de creuser dans l'histoire, j'essaie de voir les liens, les connexions, les synchronicités. Si vous êtes abonné à mes vidéos, déjà je vous remercie de ça. N'hésitez pas aussi à partager de temps en temps. C'est AllThread, c'est comme ça qu'ils vivent et c'est comme ça qu'ils rencontrent un nouveau public. Je vous fais voir ce qu'il y a derrière moi. Je pense que vous ne le voyez pas très bien, mais ça va prendre environ 5 secondes. Ça, c'est mon nouveau livre qui s'appelle Dormir, c'est possible même pour vous. Je vous mets un lien dans la description vers le livre, mais vers une vidéo qui reprend le contenu du livre en partie et qui vous le présente un petit peu mieux. Si vous avez des fois des problèmes pour vous endormir ou que vous n'avez pas un sommeil de qualité, ça peut vraiment vous aider. Et moi, je m'appelle toujours Fabien Licard. À très bientôt, ciao.